Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et c'est Étienne Brack qui nous a rejoint sur ce plateau. Salut Étienne.
Bonsoir François.
Ravi de t'accueillir Étienne. Avec une journée importante pour Alphabet. Et la maison mère de Google, bien sûr, qui a tenu sa grande conférence Cloud Next à Las Vegas. On va en parler d'ailleurs dans un instant avec Clément David. Étienne, l'une des annonces majeures concerne le déploiement d'une nouvelle puce qui s'appelle Action.
Oui, et qui fonctionne sous ARM, hein, la technologie ARM de britannique. Hein, donc ça, c'est vraiment l'annonce majeure de cette conférence, puisque historiquement, ils fonctionnent plus sur l'architecture x86 de Intel. Alors, ils ont donné plein de chiffres, c'était plus puissant, ça consommait moins d'énergie, mais c'est surtout une façon de s'adapter un petit peu aux standards du marché, parce que quand vous regardez les géants du secteur, notamment dans le cloud, eh bien, vous avez Microsoft en novembre dernier qui a fait une annonce également en passant notamment sur ARM pour l'intelligence artificielle. Vous avez également d'autres acteurs comme Alibaba qui sont passés sous technologie ARM. Et puis, c'est aussi une façon pour le groupe d'avancer ses pions dans l'intelligence artificielle. Surtout que vous avez un gros retard de Google par rapport à l'univers du cloud. Selon Gartner, c'est seulement 7,5% de parts de marché en 2022. On n'a pas encore les chiffres de 2023, alors que vous avez plus de la moitié du gâteau qui est occupé par le mastodonte Amazon avec notamment Microsoft. Donc, c'est une façon aux clients d'offrir eh bien, un petit peu un standard de marché et puis aussi d'offrir une puissance de calcul pour l'intelligence artificielle et puis aussi pour sa propre intelligence artificielle au Gemini avec une nouvelle version bêta qui a été annoncée, 1.5 Pro. Alors, il n'y a pas de grandes annonces par rapport à ce qu'on voit sur les standards actuels, mais surtout des avancées par rapport à la compréhension du son. Et en tout cas, ça plaît tout ça à la bourse aujourd'hui puisque vous avez Alphabet qui est en hausse, hein, quasiment sur des records historiques actuellement à $158 l'action alors que Wall Street est en baisse plus 50% cette action Alphabet et surtout vous avez une capitalisation boursière qui frôle les 2000 milliards de valorisation boursière et ça permet à Alphabet de passer devant son grand rival Amazon en termes de capitalisation.
Les frères ennemis qui se battent à coups de milliards. Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack pour cette analyse. Le débrief de l'ActuTech ce soir avec Didier Sens, Michel Lévy Provençal et Frédéric Simotel. Et Clément David qui est avec nous en visio depuis Las Vegas. Salut Clément.
Salut, comment ça va François?
Mais ça va très bien, ravi de te retrouver. D'habitude tu es à ma gauche, là tu es à quelques 10 000 km de nous, à Las Vegas.
Ouais, et je profite du soleil.
T'as bien raison, et tu es là-bas à l'occasion du Google Next 24, qui se déroule en ce moment, qui est le grand rendez-vous du cloud de Google. Bon déjà, petite ambiance, je vois du ciel bleu derrière toi, t'aurais dû te mettre une casquette, hein. Tu vas attraper un coup de soleil là.
Il fait très très beau, mais comme je passe ma journée au casino, c'est en sous-sol, donc je ne prends pas un gramme de soleil. Là, je veux rentrer dans deux minutes. Je veux gagner de l'argent pour l'assaut, un voyage à Dubaï pour Frédéric Simotel.
Ah, très bien, bah, c'est bien. Vas-y, cotise parce qu'il coûte cher, hein. Il voyage en business, etc. Oui. etc. Juste, Clément, l'ambiance de ce grand rendez-vous, c'est évidemment de la démesure, j'imagine, à la fois
incroyable.
À l'analogie de Las Vegas et puis de Google qui met les petits plats dans les grands, non, pour cet événement.
Tu vois, par rapport à San Francisco de l'année dernière, tu sens qu'on est sur un truc. Tu vois, l'arrivée du CEO, là, Thomas, qui arrive sur scène, il y a un compte à rebours de 60 secondes, des ballons colorés qui changent et tout. Tu sens que Vegas, par rapport à San Francisco, c'est une ambiance qui est complètement différente. Hein.
Ouais, c'est clair, avec la sphère, hein, on l'a vu Fred, la sphère qui est juste derrière moi, vous savez, qui est cette nouvelle attraction à Las Vegas, cette salle de concert avec cet immense écran qui brille de tous ses feux à des kilomètres à la ronde à Las Vegas, il est aux couleurs de Google, là c'est quand même impressionnant. Tu l'as vu la sphère ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu, moi je suis arrivé hier soir, donc pour l'instant j'ai rien vu à part mon hôtel et la keynote de ce matin.
Alors justement, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter concernant cette keynote de ce matin?
Écoute, il y a trois trucs. Étienne en parlait. Gemini, c'est vraiment, tu vois, c'est leur plus gros modèle AI. Ce qui est important par rapport à Amazon, c'est qu'en fait, parce qu'on parlait de la lutte avec Amazon, en fait, il y a une double lutte. Tu as la lutte avec Amazon qui, pour l'instant, ne propose pas quelque chose de très clair. Et puis, tu as la lutte avec Microsoft qui, pour le coup, est très, très, très bien vue en ce moment parce qu'ils ont plein d'annonces tout le temps, OpenAI, etc. Sur Gemini, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils disent, c'est le modèle va nous permettre en effet d'intégrer du son, de la vidéo, etc., etc. Mais en plus, il y a beaucoup d'annonces sur on va aider les développeurs à mieux coder. On va leur dire où sont les bugs, on va leur faire des suggestions, on va vous faire des suggestions de cybersécurité. En fait, le mot d'ordre, c'est industrialisation. C'est-à-dire que la keynote a commencé avec un petit tacle à ChatGPT, enfin moi je l'interprète comme ça, c'est pas la version officielle, sur c'est bien de lui demander, de lui poser des questions compliquées à l'intelligence artificielle. Maintenant, on va lui demander de faire des choses compliquées. Et donc, le mot d'ordre, c'est c'était marrant, ça fait 6 mois qu'on joue, on fait faire des photos rigolotes. Maintenant, comment est-ce que les entreprises explosent à travers l'IA? Et Gemini, ils sont en plein là-dedans et les annonces qu'ils ont faites sont quand même assez costauds.
On murmure qu'une version de Gemini pourrait être payante. Est-ce que c'est aussi dans on va dire, la rumeur qui traîne en ce moment à Las Vegas?
C'est pas un sujet qui est évoqué. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Là, pour l'instant, ils sont vraiment en mode. On vous explique à quel point l'outil qu'on a produit est le plus puissant sur le marché. Tu vois, par exemple, il y a eu un comparatif de tous les outils. Je ne vais pas les refaire. Ils ont dit, voilà, nous, Gemini, on est capable d'analyser en temps réel 1 million de données. Personne ne peut faire ça. On a vraiment l'outil le plus puissant. C'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui chez Google. Je pense que ça sera dans une deuxième phase si ça arrive.
Clément, autour de cette table, il y a Frédéric Simotel. Je crois que tu l'as déjà croisé 2-3 fois. Didier Sens et Michel Lévy Provençal. Et ils ont envie de te poser des questions. Donc, je leur laisse la parole.
Oui. Salut. Allez. Clément. Ma question, tu parlais justement des développeurs. C'est que, alors, ils vont appeler ça Gemini Cloud Assist. Est-ce que tu sens un peu la même envie de courir derrière le copilot, copilot bureautique, copilot GitHub, le copilot de Microsoft? Et eux, maintenant, avec Gemini, ouais, c'est aller un peu. Ils ont un Gemini pour les bases de données, ils ont un Gemini cybersécurité, ils ont un Gemini Big Data, enfin BigQuery, je crois qu'ils l'appellent comme ça. Et ouais, étrangement, exactement, on est un peu dans le copilot BigQuery, copilot cybersécurité, copilot GitHub.
Ouais. En fait, on est sur la création d'un écosystème des deux côtés. C'est-à-dire que, tu vois, Microsoft, ils ont Office 365, Google, ils ont Google Workspace. Et l'idée, c'est qu'ils ont annoncé, par exemple, aujourd'hui, Google Vids, qui va permettre de générer des vidéos et facilement, et via l'IA générative, ça arrive en juin. Ils annoncent qu'en effet, ça va aider en cyber, ça va aider dans tous les outils. Tu as tous les outils que tu peux retrouver en ce moment dans les effets d'annonce Microsoft, Google a les mêmes, en fait. De dire, quand vous faites une vidéo, quand vous faites participer à une réunion, pardon, on vous refait le résumé de la réunion, on vous dit ce qui est important. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu proposes aux gens un écosystème qui te permet de dire des choses intelligentes à tes clients et en interne d'aller plus vite. Et en fait, les deux, ils arrivent à se propulser avec 365 et avec Workspace. Ils auraient tort de s'en priver parce que c'est une rampe de lancement incroyable.
Clément, Michel veut te poser une question.
Désolé, je plisse les yeux, mais c'est parce qu'il y a du soleil partout, on n'a plus l'habitude.
Mais parce que je croyais qu'on t'éblouissait, c'est pour ça, mais bon, ça c'est fini. Hein.
C'est Frédéric Simotel, encore et toujours.
Ouais, toujours.
Oui, une petite question par rapport au business model de Google. On parle beaucoup d'une bascule du search vers les modèles de chat conversationnels. Autrement dit, on va pouvoir demain non plus être sur un simple moteur de recherche, mais interroger un outil à base d'IA qui va pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il y a eu des annonces qui touchent à la fois l'interface, mais aussi peut-être le business model? C'est-à-dire qu'on retire la publicité et on rend payant le service. Est-ce qu'il y a eu des annonces en la matière?
Il y a eu des annonces, c'est pas cette stratégie-là, mais en fait, il y a des grosses annonces sur le côté comment est-ce qu'on tire parti du moteur de recherche pour l'IA. Et en fait, ils auraient tort de balancer ça à la poubelle parce qu'ils ont quand même le meilleur moteur de recherche du monde. Et donc, en fait, une des grosses annonces, et c'est peut-être l'annonce qui a été la plus applaudie tout à l'heure, c'est le côté, maintenant, tout ce qu'on va faire avec l'IA, vous allez pouvoir utiliser la puissance de notre moteur de recherche pour poser vos questions, créer vos prompts, chercher à l'intérieur des différents modèles, etc. Donc, en fait, ils sont plutôt en train de dire, on a un asset que personne n'a, parce que pour le coup, Bing, côté Microsoft, n'est pas du tout au niveau, on le sait tous. Donc, en fait, on va plutôt essayer de merger les deux, de rassembler les deux pour faire des outils plus puissants que n'importe où ailleurs. Donc, ça n'a pas encore parlé business model, mais en revanche, ça a beaucoup parlé comment est-ce qu'on part de notre moteur de recherche pour tirer encore plus côté IA génératif.
Ils ont donné des dates?
Ils ont dit que, alors, Google Vidéo, ce sera en juin, et sinon, tout le reste est en preview. On n'a pas de date exacte, mais je pense que ça sera avant juin pour la partie recherche Google mixée à l'IA générative. Ils avaient l'air de dire que c'était très bientôt.
Didier.
Oui, moi, le problème qui se pose, c'est que Google, pour l'instant, la majorité de son chiffre d'affaires, c'est quand même la recherche Google. Or, ils veulent faire intervenir l'intelligence artificielle dedans, mais ils ont en face d'eux des concurrents sérieux, hein, Copilot, Arc et d'autres. Est-ce que du coup, et on parlait de business model tout à l'heure, est-ce que du coup, ça veut dire que Google Search va changer de forme, ou est-ce qu'il y aura deux Google, un Google basique qui va se contenter de nous donner des liens et un autre Google plus évolué qui va nous donner des informations rédigées et quitte à ce que ce modèle-là soit payant?
En fait, tu vas continuer avec un Google un peu poussé par l'IA pour le grand public, mais en fait, ce qu'ils accélèrent de dingue, c'est la partie entreprise, c'est-à-dire que Google, ils ont, je crois que le chiffre d'affaires, c'est 30 ou 40 milliards de dollars avec Google Cloud l'année dernière. Et l'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on multiplie, à côté du moteur grand public que les gens connaissent, comment est-ce qu'on multiplie notre accélération avec les grandes entreprises. En fait, tu vois, c'est l'idée du partenariat qu'ils ont avec Orange, qu'ils ont annoncé aujourd'hui, mais ils ont annoncé Valeo, etc., où on va les aider avec leurs clients. On va aussi les aider en interne à avoir des dates et de l'IA décentralisée pour utiliser les outils Google, mais en même temps à protéger les données sensibles. Ils essayent vraiment de draguer les grandes entreprises parce que le chiffre d'affaires, en fait, pour eux, il est là. Et tu vois, c'est la bascule qu'avait réussi Amazon en premier avant tout le monde, c'est de dire oui, on a une vache à lait côté plateforme Amazon que tout le monde connaît, mais en fait il y a toute une partie B2B que les gens au quotidien voient pas, mais qui est la nouvelle vache à lait de l'entreprise pour les 20 ans à venir.
Merci. Alors, tu l'as brièvement évoqué, hein, le partenariat entre Google et Orange. Alors évidemment, ça a une résonance un peu particulière chez nous, puisque c'est l'opérateur français numéro 1. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, l'intelligence artificielle générative pourrait améliorer les réseaux. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Tu as compris un petit peu les tenants, les aboutissants de ce partenariat entre Google et Orange?
Oui, j'ai compris. En fait, déjà, petit cocorico, il y a pas mal de boîtes françaises qui ont été mises en avant. C'est-à-dire qu'ils ont pas, il y a très peu de boîtes. C'est cool. C'est une keynote d'une heure. On doit faire toutes les annonces Google Cloud. Ça a parlé de Carrefour, ça a parlé d'Orange. Il faut savoir qu'ils ont annoncé aussi, parce qu'il y a toujours une partie physique derrière le cloud. Ils ont beaucoup d'annonces. On parlait d'Action côté Etienne. Mais ils ont annoncé aussi des nouveaux câbles sous-marins qui ont été construits. Il y en a 3 qui passent par la Polynésie française. Enfin, la France a été pas mal le sujet. C'est intéressant. Et donc, en fait, Orange, il y a toujours 2 aspects quand Google va travailler avec les entreprises. Il y a comment tu fais un meilleur service pour tes clients et comment nous, on t'aide en interne. Donc en fait, il y a la question de comment est-ce que les clients Orange, ils vont rapidement avoir de l'IA générative qui permet d'avoir un meilleur service client, des meilleurs conseils pour le forfait, etc. En même temps, comment dans les usines Orange, dans les locaux, etc., etc., on arrive à décentraliser un maximum l'IA générative pour que ça rende Orange le plus indépendant possible avec la meilleure performance possible. Et ça, c'est un modèle Orange, c'est très important pour eux parce que évidemment, ça fait une belle marque, c'est l'opérateur historique français, c'est rassurant et surtout, c'est un modèle qu'ils veulent dupliquer avec le plus d'entreprises possible derrière.
Fred.
Oui, on a entendu beaucoup de signatures avec des entreprises. Tu as cité Valeo, Carrefour, il y a aussi les Bayer sur des secteurs sur la santé, la radiologie. Ma question, c'est aussi, le but derrière, c'est quand même bon, d'utiliser de l'IA, mais c'est de ramener des clients vers le cloud. Et là, j'imagine que ils se lancent à l'assaut AWS, c'est entre 30 et 34% de part de marché. Azure, c'est entre 22 et 24%. Et Google, ils sont quand même, c'est à la moitié, hein, ils sont entre 12 et 14%. Donc là, il y a un gros enjeu aussi pour eux. Enfin, est-ce que ça, ils l'ont exprimé clairement. Voilà, c'est le but, c'est un peu comme Microsoft avec Azure, hein, c'est redonner encore plus de vigueur à leur offre cloud.
Ouais, il faut savoir que moi chez Paddock, j'ai beaucoup de clients par exemple qui étaient partis sur le cloud avec Amazon ou avec Microsoft et qui prennent ensuite Google sur la partie data. Évidemment, en fait, c'est entre guillemets une deuxième chance pour tous ceux qui veulent rentrer sur le marché du cloud aujourd'hui d'aller chercher des clients, parce qu'en fait même des clients qui sont déjà chez un autre concurrent, tu peux rentrer par la data, proposer des choses, et puis au moment où les contrats sont terminés, etc., dire attendez, sur la partie cloud on peut aussi créer un truc cool, ce qu'on a fait sur la data c'est pas mal. Donc évidemment, en fait, c'est une porte d'entrée incroyable pour Google, qui est troisième, c'est le troisième des gros hyperscalers, de re-rentrer dans des grands comptes, parce que historiquement ils étaient très très forts sur les startups scale-up. Et là où ils sont très très bons, ils accélèrent depuis 1 an, 2 ans, c'est la partie grand groupe, et ils veulent absolument profiter de l'accélération qui est offerte par leurs outils data qui sont excellents.
Google n'est que troisième. C'est vrai que il y a encore du chemin à parcourir pour rattraper le numéro 2 Microsoft, et tu disais le numéro 1 AWS, ouais, qui aujourd'hui est plutôt tranquille, on va dire.
Oui, au troisième trimestre, ils ont quand même perdu 3% de part de marché. 2-3%, hein. Ouais. Et puis, je pense qu'il faudra regarder les premiers semestres, les 6 mois qui arrivent, pour voir comment Google a récupéré beaucoup de clients, j'imagine, via OpenAI. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, hein, bon, on était à l'AWS Summit il y a quelques jours, où ils ont sorti leur offre, là. Mais la stratégie AWS, elle est beaucoup moins claire, hein, que celle d'un Google aujourd'hui ou d'un Microsoft depuis 2-3 mois.
Merci beaucoup Clément.
C'est importante, mais ouais, juste personne n'est serein sur ce marché. Hein. C'est la guerre.
Ouais, c'est la guerre, c'est ça.
Et donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que les faut investir parce que personne n'est serein.
Les places du podium pourraient changer, à ton avis?
Sur les 3 à 4 ans, c'est possible. Tu sais, sur ce marché-là, ça va tellement vite. Mais moi, j'ai du mal à suivre tous les produits de nos prestataires, de nos partenaires. La Roche-Tarpeyenne est proche du Capitole, on va dire.
Merci beaucoup Clément.
Elle est pas mal celle-là, je suis content. Ciao François.
Elle est pas mal. Merci beaucoup, profite bien du soleil et de Merci. Ce grand rendez-vous Google. On voit, j'ai vu passer des enfants derrière avec des bouées, donc je pense qu'il y a une piscine qui est pas loin. Ça donne envie d'y aller en tout cas. Merci Clément, merci beaucoup. On va rester, tiens, dans l'actualité Google, avec une fonctionnalité que tu voulais nous présenter, Didier. C'est Find My Phone, qui arrive sur Android, donc l'écosystème Google, bien sûr. C'est une nouveauté, et on a l'impression que Google veut rattraper le retard qu'ils avaient pris par rapport à Apple, qui a été au top pendant des années avec leur système de localisation de téléphone.
Ils veulent même aller beaucoup plus loin, et ils ont les moyens d'aller beaucoup plus loin, parce que Android, c'est quand même 3 milliards d'appareils qui se baladent dans le monde. Donc comparé à Apple, qui est beaucoup plus petit, ça veut dire un réseau...
Un maillage
absolument incroyable. Comment ça marche ? Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin de connexion cellulaire, il n'y a pas besoin de GPS. C'est simplement quand on a un smartphone à un endroit, les autres smartphones autour, grâce à des petits signaux Bluetooth, arrivent à détecter sa présence et peuvent le géolocaliser en envoyant eux-mêmes leurs infos à Google. Donc c'est un système qui est très intéressant pour retrouver son téléphone, mais aussi, comme le fait Apple avec ses AirTags, pour retrouver des objets, hein, la valise qu'on perd, les clés, la télécommande, toutes ces choses-là. Le chien qu'on veut suivre, ou même les enfants, on le met dans le cartable. Donc ça permet de géolocaliser très rapidement un objet ou une personne. Et ça veut dire que le champ des possibles est multiplié par 10, ouais,
c'est 100, exponentiel.
Voilà, par rapport à ce qu'a fait Apple. Ouais. Apple a été pionnier, mais là, on passe carrément une échelle supérieure.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accord entre Google et Apple pour que chacun puisse bénéficier de la technologie de l'autre, d'après ce que j'ai compris.
Alors,
c'est-à-dire que les AirTags pourront être détectés par des téléphones Android, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ça ne marchait qu'avec le parc d'iPhone. Et là, les AirTags, maintenant, puisque visiblement Google et Apple se sont entendus, pourront être les AirTags d'Apple pourraient être détectés dans un environnement Android en fait, et c'est plutôt pas mal en fait.
Alors oui, mais ce qui est bien aussi, c'est que on imagine que les partenaires de Google historiques vont en profiter pour créer leur propre AirTag. Et là, ça veut dire aussi un nouveau marché qui va exploser.
Il y a déjà donc une concurrence qui va s'intensifier.
Ouais, donc il y a déjà des grands noms comme Motorola ou d'autres qui ont dit qu'ils allaient participer à cette expérience, mais encore une fois, c'est une mini-révolution parce qu'on va arriver à un réseau de géolocalisation qu'on n'a jamais vu auparavant.
Bon, moi, c'est toujours ça qui m'étonne chez ces Américains, c'est leur côté pragmatique et en même temps concurrentiel. Pragmatique en se disant, avec Apple, on va partager ces infos pour finalement avoir cette localisation qui va servir à tout le monde, parce que Apple se dit finalement, je vais pas réserver ça à mes utilisateurs et les utilisateurs Android aussi. Et puis derrière, comme tu viens de le dire, il y a un nouveau marché autour des AirTags, donc ça va forcer tout le monde à innover. Et je trouve que là-dessus, moi, ça me fascine toujours cette ouverture. On a beaucoup appris des 30 ans des années Microsoft, on fermait tout et tout ça. Aujourd'hui, alors évidemment, il y a encore pas mal de choses fermées, mais où il y a parfois, ils se disent, tiens, là, on peut coopérer, et puis derrière, ça va ouvrir tellement de choses que...
J'ai l'impression que les relations se détendent un peu entre Apple et Google. Il y a donc cette coordination entre, les AirTags et leur système de localisation qui devient un peu universel, finalement, puisque ça marchera sur tous les téléphones. Il y a le RCS qui va arriver sur iPhone, qui est ce SMS, du futur augmenté.
Enfin, ils ont freiné des cas de fer pendant un bout de temps.
Oui, mais tu as remarqué que Apple a changé complètement de direction en disant, d'ici la fin de l'année, le RCS arrivera sur les iPhones.
Oui, mais c'est aussi la pression du régulateur qui fait que, pour des raisons de compatibilité.
Michel.
Oui, c'est aussi le cas dans l'IA, puisqu'on a entendu des discussions aussi entre Apple et Google sur Gemini, potentiellement.
C'est vrai.
Pour intégrer.
C'est vrai.
Moi, je pense que.
Ça serait intéressant d'être en sous-main comme
non,
ça.
Non, mais Google, et de voir Google les n'a jamais été l'ennemi d'Apple. Apple a toujours utilisé Google sur les iPhones, sur Safari, le moteur de recherche par défaut.
Oui, bien sûr.
Ça prouve aussi que Apple est quand même en retard. En retard à plein d'endroits. Il est en retard sur l'IA. Là, on a parlé de 3 milliards de devices versus je ne sais pas combien de milliards de devices.
Oui, mais là, ils ne sont pas en retard sur la technologie. Ils sont en retard parce qu'ils n'ont pas la taille critique par rapport à l'Android, bien sûr.
C'est la question. C'est la question du marché. Donc, Apple accumule quand même les retards dans plein de domaines. Je ne parle même pas du cloud, évidemment, parce que ce n'est pas vraiment leur cœur de...
Est-ce que ce retard n'est pas lié aussi à leur volonté d'avoir un écosystème fermé?
Possible.
Et comme il est fermé, ben justement, tu te déconnectes un petit peu des innovations des autres.
C'est pour ça qu'il l'ouvre un peu, pour s'ouvrir justement d'autres innovations, d'autres potentiels.
On va voir comment ils vont réagir quand même dans les mois qui viennent, Apple. Ils viennent d'annoncer aussi que iOS 18, a priori, n'aurait pas d'IA à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à jour de Siri, alors qu'on l'attendait. On se disait, mais comment cette boîte peut être à ce point? Google est en retard de 6 mois par rapport à Microsoft et OpenAI, mais Apple est en retard de plusieurs années, probablement. Ouais. Donc, moi, je suis très inquiet quand même pour Apple.
Bon, on verra bien.
Une dernière petite. Étienne Braque l'a dit très rapidement, mais je pense que l'année 2024, ça va être quand même l'année. On a eu l'année Nvidia, mais là, dans les 12 prochains mois, on va regarder ARM.
Il y a un vrai. Parce que là, il faudrait revenir sur le sujet parce que c'est une boîte absolument incroyable.
Il y a les PC Microsoft qui arrivent avec de l'ARM dessus. Tu l'as dit, SoftBank, qui à un moment, rappelons-nous, Nvidia, SoftBank, Nvidia.
Ils voulaient racheter
ça devait se fusionner. SoftBank, bon, c'est le régulateur britannique notamment qui a dit non. Et SoftBank, je pense, se dit ah, finalement, c'est pas mal. Et je trouve que là, on commence vraiment à avoir plein de signaux plutôt faibles, que ça commence à devenir un signe fort du côté ARM. Et la suite de l'année 2024 risque d'être beaucoup en faveur toujours de Nvidia, mais ARM.
Mais d'armes aussi. On en reparlera. Tiens, peut-être demain dans le débrief. Malheureusement, Didier, tu ne seras pas là, sauf si tu souhaites revenir, mais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Tiens, il nous reste 2 minutes juste pour évoquer. C'est vrai qu'on parle beaucoup du progrès qu'apporte la technologie, mais la technologie aussi apporte une certaine dangerosité, une fragilité, et notamment auprès des enfants. On le voit avec cette étude Ipsos qui est sortie aujourd'hui et qui est effarante. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. En fait, les enfants aujourd'hui passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans que en lecture. C'est-à-dire que, en gros,
il y a faire autre chose que lire.
Voilà, c'est ça. Écran de divertissement, c'est ça. Et on passe de, je crois, 1h20 de lecture par semaine à 5h de visionnage d'écran par jour. C'est incroyable.
Oui, c'est un vrai problème de culturel, social, parce que la lecture, c'est quand même, tout le monde le sait, hein, ça développe des facultés, ça a un côté très
bénéfique pour le
développement du cerveau. Voilà. Et puis surtout l'âge entre 16 et 19 ans, c'est l'âge où on découvre que la littérature ouvre d'énormes champs de possibles. C'est l'époque où on lit L'écume des jours, Bel Ami, tous ces bouquins-là qui forment un peu la structure, la personnalité de quelqu'un. Et moi, je suis sidéré parce que les copains de mes enfants avec qui je discutais l'autre jour, ils me disaient « Nous, on lit des bouquins que quand on nous les demande à l'école, quoi. » Mais en temps de loisir, non, ils lisent pas, ils regardent. Alors,
c'est-à-dire que le plaisir de visionner des écrans passe au-dessus du plaisir de lire.
Oui. Oui,
Michel.
On a une addiction aux écrans, on le sait bien maintenant. Les mécanismes qui sont mis en œuvre par ces acteurs créent de l'addiction. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant que parent. Essayer de limiter le temps d'écran, essayer de remplacer aussi certains écrans par des... Moi, j'utilise aussi beaucoup avec ma fille les écrans e-ink parce qu'ils n'ont pas cette capacité aussi de laisser veiller. Ils sont moins connectés aussi, donc il y a moins d'applications.
Tu n'as pas de vidéo sur les écrans e-ink.
Tu n'as pas de vidéo, tu as plus de
lecture, on va dire.
Exactement, les écrans e-ink, c'est toujours des écrans, mais
Rapprochent un peu du papier.
Exactement, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ce n'est que le début. Je vous rappelle qu'on rentre dans le monde du métavers, de l'IA. Il va falloir résister très fort pour nos enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans.
Ce qui est intéressant, c'est que les filles sont moins touchées que les garçons.
Les filles sont moins touchées que les garçons. Ouais. Et ben voilà. On est les mauvais élèves en termes de lecture. Enfin, nous, voilà.
Non, mais c'est le rôle. Enfin, je pense qu'il y a un grand rôle des parents aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais
évidemment.
La facilité.
Mais difficile, difficile de se battre contre les écrans qui sont partout, tout le temps, dans la maison. Et c'est vrai que comment faire? Bon, enfin bref, écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci en tous les cas à tous les trois. Merci Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Michel Lévy, provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, qui est en train de nous préparer une belle édition pour le 11 juin prochain au Grand Rex. Tu auras l'occasion de revenir nous en parler, bien sûr.
Avec plaisir.
Et Didier Sens, journaliste, bien sûr. Didier, tu es le bienvenu, comme d'habitude, quand tu veux.